Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Vous écoutez Les Empreintes, le podcast qui donne vie à la matière. C'est une création originale mettant à l'honneur l'artisanat d'art et la création au féminin. Ce podcast est autoproduit par Mayut, transformé désormais en studio d'écoute et de création sonore. Car tout le monde a quelque chose à raconter et que par ici, on a bien contribué à porter les voix, cette activité m'est apparue au final comme une évidence. Et petite nouveauté, il est désormais possible, si vous le souhaitez, de soutenir le podcast au travers de son Ko-fi. Il s'agit d'une cagnotte en ligne spécialement conçue pour contribuer à la production des empreintes. Et oui, Les Empreintes est un podcast indépendant, et depuis ses débuts, elles s'autoproduisent comme des grandes. Toujours est-il qu'un petit coup de pouce pour perdurer et se développer, on n'est pas contre. Libre à vous donc. Si vous souhaitez en savoir de quoi il en retourne, toutes les informations sont à retrouver dans la description de l'épisode. Cela va faire bien longtemps qu'un épisode des empreintes n'est pas sorti sur les ondes. Et je ne vais pas vous mentir, cela n'était pas forcément prévu. Mais ça n'empêche que cela m'a manqué terriblement. Pourquoi tant d'absence et tant de silence ? Eh bien, je ne pourrais que vous répondre « la vie », tout simplement. L'envie de produire des épisodes et d'explorer la création féminine est toujours là. Le temps et l'énergie, parfois moins. Alors c'est pourquoi j'éviterai donc toute promesse d'une diffusion prochaine et rapprochée d'un nouvel épisode futur, car je ne sais ce qu'il en sera. Néanmoins, s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est que ça a été un bonheur absolu de reprendre le micro et de repartir à la découverte d'une nouvelle artisane. Une vraie nourriture pour l'âme, en ce qui me concerne, et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Allez, trêve de blabla, sautons donc à pieds joints dans le vif du sujet. Dans ce 20e épisode, je rencontre Marie Dumas, miniaturiste et créatrice de bijoux en argile polymère. Nous nous sommes rencontrés d'une façon toute particulière, car c'est au travers d'un challenge créatif mené par le collectif Les Mains que nous avons fait connaissance. À vrai dire, j'ai eu le plaisir d'y prendre part en tant que jurée, et Marie, quant à elle, a été la lauréate. Son travail est dingue. Marie a commencé à manipuler le polymère dès son plus jeune âge, alors qu'elle passait ses étés à Olioul, dans la maison de ses grands-parents dans le sud. C'était l'été créatif, comme elle aime à le raconter, avec des souvenirs empreints de chaleur et le chant des cigales en fond. Rien que de l'imaginer, on s'y croirait. Le désir de créer s'est donc ancré dans l'enfance et est resté là. Venu le choix des études, c'est vers le droit que s'est dirigée Marie. Des études qui lui ont plu, mais qui pourtant lui ont aussi fait sentir que la notion de sens dans son avenir professionnel lui manquait. À quoi je sers ? Est la question qui a fait tout basculer. Le polymère et la miniature ont alors pris le dessus, et c'est sans hésiter qu'elle a laissé la création prendre sa juste place. L'atelier lyonnais est alors né, le sens dans son travail avec. Et cela fait maintenant 13 ans que sa petite entreprise persiste et signe. Ses créations sont surprenantes, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne laisse aucunement indifférent. Impossible de ne pas avoir une réaction, quelle qu'elle soit, en découvrant ses mini ficus, mini poireaux ou encore mini azulejos. Marie est une marathonienne, elle aime les défis et aime se challenger afin d'explorer les possibles. Le souci du détail, la technicité, tromper le réel sont autant de moteurs qui font de son entreprise créative une affaire qui roule, une affaire qui se renouvelle au gré des dynamiques de sa propriétaire. En bref, une affaire vivante quoi. Du coup, dans cet épisode, on a parlé de l'entrepreneuriat qui s'impose comme un statut inhérent à la création, de l'importance du rapport client comme nourriture sociale, de surmenage et de la gestion de coups durs quand on est indépendante, du challenge comme levier de redécouverte de soi dans son travail créatif. Et bien sûr, de polymère, d'infiniment petit et de nourriture. Beaucoup, beaucoup de nourriture. Cet épisode a été enregistré dans l'atelier de Marie, situé en arrière-boutique de l'atelier des créatifs à Lyon. Telles deux pipelettes, nous avons échangé avec joie et tout simplement autour d'un café et de petits gâteaux. Alors je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir notre conversation. Je vous souhaite une belle écoute et vous retrouve à la fin de cet épisode. Salut Marie.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Ça va, merci. Et toi ?
Ben, ça va super, merci beaucoup. C'est une grande, c'est une grande reprise. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu d'épisode enregistré pour les empreintes, donc je suis à la fois super, toute heureuse, toute excitée, un peu apeurée aussi. Je pense un petit peu comme toi aussi, tu me disais que tu étais un peu stressée par l'enregistrement,
oui.
Mais tout va bien se passer. Et puis c'est un épisode qui est un petit peu particulier, parce que toutes les deux on s'est rencontrées dans le cadre du challenge créatif organisé par le collectif Les Mains, mené par Myrtille. Et on y reviendra, mais du coup, tu as gagné ce challenge.
Oui.
Et donc, du coup, bah, écoute, tout simplement, On va reprendre la routine. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais ?
Alors, donc je m'appelle Marie, je suis miniaturiste et créatrice de bijoux. Ma marque s'appelle l'Atelier Lyonnais et je suis en activité depuis l'année 2010.
Et là, du coup, ça fait déjà soufflé tes bougies de oui, 10 ans.
Oui, cette année, on fêtera les 13 ans.
Et est-ce que tu peux nous décrire en quoi ça consiste d'être miniaturiste ? Parce que c'est quand même, j'allais dire, un métier rare de l'artisanat, en tout cas de prime abord comme ça. En quoi ça consiste d'être miniaturiste ?
Alors, en miniature, y a l'idée d'échelle. Et souvent, on parle de l'échelle 1/12e, qui est, en français, on dit que c'est l'échelle des maisons de poupées. Dans la miniature, il y a beaucoup de gens qui font ça comme passe-temps, en fait. Comme activité du week-end, méditative, constructive, qui permet d'utiliser ses mains et aussi de toucher un peu à tous les matériaux différents, le bois. Moi je travaille la polymère aussi pour les bijoux, donc ça peut revenir aussi pour des textures, des choses comme ça. Ça demande aussi un peu des maths pour construire, enfin déjà tout, tout réduire à l'échelle, diviser par 12, toute la réalité en centimètres pour arriver sur l'échelle 1/12e. Et du coup, en ce qui me concerne, je l'utilise à la fois pour les bijoux, puisque je fais des bijoux miniatures. Bon, pour le coup, pour les bijoux, je ne respecte pas forcément une échelle. Et en ce moment, du coup, je développe de plus en plus de la miniature avec une idée pas encore très précise de la finalité, enfin de l'objet final. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est de la miniature 1/12e et que je vais forcément vers les choses qui me plaisent, c'est-à-dire les plantes, les petits meubles avec des styles bien précis. Dans le challenge pour les mains, par exemple, donc j'avais fabriqué une pièce salon-bibliothèque. Beaucoup de petits livres qui me ressemblent tout à fait. Et voilà en quoi ça consiste la miniature, c'est vraiment réduire le monde qui nous entoure, divisé par 12.
Pour simplifier, ça veut dire ça. Et alors là, je vais complètement revenir en arrière. On va surtout parler de ton parcours, parce que toi, à la base, tu as fait des études de droit.
Oui.
Et donc, tu ne te destinais pas forcément à être créatrice. Et même si la création et entre autres l'argile polymère ont fait partie de ta vie très tôt, c'était pas du tout le plan de base.
pas trop.
Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
En fait, j'ai toujours été créative. Ça, depuis que je suis toute petite avec ma grand-mère, j'ai un peu touché à plein de techniques différentes. Enfin, je veux dire, j'ai passé des étés entiers à faire du papier mâché. Construire des petites boîtes, plein de choses. Mais effectivement, au moment des études, il était plus sage de faire des études conventionnelles, à savoir, du coup, en ce qui me concerne, j'ai fait du droit. J'ai fait du droit longtemps, j'ai fait 5 ans,
oui.
J'ai un master 2, et j'ai fait aussi de l'histoire de l'art, puisque du coup, mon master 2 était spécialisé dans le marché de l'art, et que du coup, j'essaie de rattraper mon plaisir dans la création, enfin de faire concourir en fait, non pas concourir,
concorder
l'aspect droit un peu carré et l'aspect créatif. Bon, au final, c'était un milieu très large. Au final, à la fin de mes études, il y avait vraiment des façons d'exercer un métier qui étaient très très différentes, mais je me suis vraiment pas retrouvée là-dedans. À la fois à cause de mon âge, je pense. J'étais trop jeune pour savoir encore qu'est-ce qui me conviendrait. Et puis du coup, à ce moment-là, la création a vraiment de nouveau envahi mon quotidien.
Oui.
Et c'est devenu une évidence assez rapidement de se lancer.
tant mieux pour nous. Et c'est vrai que tu m'avais dit que dans ton stage de fin d'études que tu as fait quand même à l'UNESCO,
oui.
Je tiens à dire, tu t'étais sentie à la fois très libre de travailler, mais assez noyée aussi, et surtout ce qui en ressortait pour toi, c'était cette question de se dire à quoi on sert.
Oui.
Et tu m'as raconté cette anecdote de cette lettre que tu as dû rédiger pendant 2-3 jours, si ce n'est plus, avec des corrections, etc. Et une lettre qui serait potentiellement pas lue ou lue en diagonale, et que ça t'avait frappé. Donc du coup, clairement, avec la création, tu as pris le contre-pied en revenant dans la matière.
Mais c'est vrai, parce que
ce sentiment que tu as eu, je pense que c'est un sentiment que beaucoup de gens peuvent avoir aussi dans leur...
Le manque de sens, en fait, ouais, tout simplement, de à quoi je sers, et est-ce que ce que je suis en train de faire va avoir un impact sur quelque chose ou quelqu'un d'autre, enfin, ouais. D'ailleurs, juste là, on est dans mon atelier, il y a un petit carton, une petite carte, c'est « Be the reason someone smiles today ». Et je pense que vraiment, dans mes créations, parce qu'un jour, je me suis demandé, justement, à ce moment-là, pile à ce moment-là, entre la fin des études, je me suis dit « Oui, bon, c'est super, je fais des bijoux, mais je sauve pas la vie des gens ». Et je voyais les gens autour de moi qui avaient j'avais l'impression que ces gens-là autour de moi avaient des métiers qui avaient beaucoup plus d'impact que ce que j'avais l'intention, moi, de faire au jour le jour. Et après, je me suis dit, non, mais moi, en fait, avec mes bijoux, je fais marrer les gens, je leur amène dans leur quotidien, je mets de la couleur. Enfin, au final, j'ai trouvé un espèce de drapeau comme ça, de me dire, ouais, mais moi, ce que je fais, ça a du sens pour moi, ce qui est pas rien. Et ensuite, ça a un impact minime et peut-être même pas du tout. Peut-être que je me fourvoie là-dessus, mais ça a un impact, en tout cas, je le crois, sur la vie des gens. Mais je pense que même s'ils n'achètent pas, quand je vois en boutique, voilà, quand ils rigolent sur « Ah, t'as vu tel truc ? Oh non, mais moi, j'oserais pas. » Bon, bah, c'est pas grave, ça a suscité une réaction, éventuellement une petite émotion. Là, justement, à Cobalt, j'expose aussi la pièce miniature. Et c'est super de les... En plus, je suis un peu en incognito parce que je ne leur dis pas forcément que c'est moi qui l'ai fait. J'entends ce qu'ils en disent. Et c'est amusant. Et là, je me dis, ah oui, en fait, si, ce que je fais, ça a du sens.
Ouais, et puis c'est comme s'il y avait vraiment cet alignement entre ce sens pour toi.
Oui.
Et peu importe, en fait, le sens. C'est juste qu'il y a quelque chose qui match à la rencontre de l'autre et que toi, ça te remplit.
Donc, mais c'est vrai que ça m'avait questionnée au début. Je m'étais dit, oh, quand même.
Parce qu'au final, même tu m'as expliqué que dans tes études, il y avait des choses qui te plaisaient. Tu étais quand même sur l'histoire de l'art. Après, tu avais aussi tout ce qui était marché de l'art, il me semble.
Oui.
Quand tu as fini tes études, c'était quelque chose. Tu t'es dit, tiens, si j'allais plutôt sur le transport des œuvres d'art, il y a vraiment quelque chose dans ta famille, ta grand-mère qui était historienne de l'art. Donc, il y a quand même quelque chose là-dedans.
Oui.
Mais au final, le polymère...
je pense que j'ai vraiment fait mon petit chemin, ma petite place dans tout ça, en n'oubliant pas aussi que justement le côté entreprise individuelle, enfin le côté entrepreneur, est une réalité qui me convient bien, qui connaît, enfin c'est pas facile tous les jours, on se pose des milliards de questions, on se remet en cause et on est seul à gérer la barque, mais justement... Je crois que le fait de pouvoir prendre mes propres décisions, le fait de gérer mon temps, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, au-delà de la création, dans l'entreprise, me conviennent aussi très bien.
Et ce choix de l'indépendance, de l'autonomie, de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui t'est venu plutôt naturellement parce que tu viens quand même d'une famille où tes parents sont médecins militaires, entre autres. Tu as trois grands frères, t'es dans un schéma plus normé et tu es la seule qui est entrepreneur. Donc, c'est pas toujours évident quand on est le seul poussin de la fratrie qui décide d'être autodidacte dans ce qu'elle fait.
Oui.
Donc, est-ce que là a été la réaction de ta famille par rapport
Les premières années, les premiers mois, années, là, c'était pas évident vis-à-vis de mes parents. C'est sûr que... eux, de m'avoir vu lâcher, entre guillemets, le droit et 5 années de fac pour me lancer là-dedans, dans une voie qui n'était absolument pas ni concrète, ni sécurisée. C'était un petit peu compliqué pour eux. Mais en revanche, moi, je me suis vraiment épanouie là-dedans et du coup, j'ai aucun doute que c'était ce qui me convenait. Mais ça s'est imposé, c'est-à-dire que... Ça s'est imposé à moi. J'aurais jamais imaginé avant ça être indépendante. J'ai pas choisi l'indépendance.
Oui.
J'ai choisi la création. Mais ça allait avec. Oui. Et en fait, je me rends compte au bout de plusieurs années, même très rapidement, au bout de 2 ans, quand j'ai eu mon atelier dans le Vieux-Lyon, le fait d'avoir l'atelier, la boutique, donc un nouveau fonctionnement, on va dire, pour la vente des bijoux, c'était parfait, quoi. C'était le bon endroit. C'était ma deuxième maison. C'était vraiment, ça s'est imposé à moi et en fait c'était tout à fait le chemin qui me convenait.
Oui, donc tu l'as dit, en fait, tu as choisi la création et puis l'indépendance est venue avec parce que dans le domaine de la création qui est quand même très large, il y a du salariat, Et puis, il y a de l'indépendant. Et puis, en plus, tu dis, ça s'est imposé à toi, mais c'est comme c'est quelque chose que tu pratiquais en parallèle de tes études. Et puis, tu as commencé à faire des petits cadeaux, des petites ventes.
Oui,
en fait, on a toujours l'impression qu'il y a une sorte de déclic, que ça arrive d'un coup. Au final, il y a quand même quelque chose de fond qui s'est,
oui.
s'est quand même tramé.
Oui, oui.
Et ce que tu me disais, ce qui a été toi, pour toi, ce qui a été aussi boostant, c'est quand tu as remporté le stand sur le marché d'idées d'art.
Oui.
Il y a quelques années.
Fin 2011.
Ouais, fin 2011. Et que ça t'a... Déjà, je trouvais que c'était intéressant parce que tu m'as dit que déjà que c'est quelque chose que tu n'aurais pas fait toi-même si tu n'avais pas remporté ce concours. Et je trouve que c'est... Parce qu'en effet, c'est aussi un investissement d'avoir un stand sur un marché. Et du coup, ça a été aussi le boost pour toi de... d'aller comme ça à la rencontre aussi des publics parce que en parallèle tu vendais aussi sur un My Little Market qui n'existe plus si je dis pas de bêtises et du coup bah tout a permis de d'éclore entre guillemets.
Oui, clairement c'est grâce au site qui avait mis en jeu du coup cet emplacement en partenariat avec Idées d'art et c'était un concours donc déjà là il y a eu un peu de un nouvel environnement pour moi. Il a fallu faire de la promotion, mobiliser tout mon entourage. Et c'est allé très très loin. Je pense encore à mon amie Alice qui a elle-même inondé tout son entourage de gens que je ne connais pas et qui encore aujourd'hui disent à Alice « Ah mais oui, ça c'est ta copine qui avait gagné le concours. » Donc on parle d'il y a 12 ans.
Les soutiens indéfectibles.
Ouais, voilà, c'est waouh. Donc ça, c'était déjà très nouveau pour moi dans mon entreprise. Donc le fait d'avoir mobilisé comme ça et puis plein de gens aussi qui se sont mobilisés pour moi que je ne connais pas forcément et d'avoir remporté ce concours, c'était déjà un premier truc. Ensuite, le fait d'exposer dans ce salon pour la première fois en n'ayant jamais fait de salon de cette ampleur, c'est-à-dire sur 2 jours et demi avec une vraie installation... Enfin, on met pas juste une table et puis ça ira. Et une nappe, hein, non, on fait quand même quelque chose de plus propre, de l'éclairage, enfin quelque chose de beaucoup plus professionnel que tout ce que j'avais pu faire avant. Sachant qu'en plus, j'ai fait préparer tout ça en 5 jours. Là où aujourd'hui, quand je m'inscris pour ce genre de salon, je prends 3 mois de préparation. Mais ça s'est vraiment super bien passé. Et effectivement, j'aurais jamais osé avant ça me lancer là-dedans. Et grâce à cette première expérience... J'ai pu vraiment, les années suivantes, continuer à faire ces salons en me disant « c'est super, je sais que je peux le faire ». J'avais gagné en expérience aussi pendant le salon, en fait.
Oui, complètement. Ouais. Et puis, tu m'as aussi dit que pour toi, ce qui était très important, c'était le rapport client. Et tu l'as déjà un petit peu mentionné tout à l'heure, quand tu vois même tu es en boutique et que tu vois leur réaction, c'est quelque chose qui reste... essentiel pour
ça
toi.
En fait c'est de la nourriture impalpable,
c'est de la nourriture humaine et sociale.
Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ça nourrit vraiment le travail.
Ouais.
Toutes mes collègues en création le diront, c'est le retour des gens, que ce soit souvent il est positif mais parfois il peut être aussi négatif, puisque moi dans les premières années j'entendais quand même beaucoup plus de choses négatives. Pas sur mon travail, mais sur les prix, par exemple.
Oui.
Mais ça, combien de fois j'ai dû expliquer que en fait, le prix du bijou était bien calculé et que juste, ils n'avaient pas l'habitude. Ou que c'était pas leur budget. Enfin, je veux bien l'entendre, mais souvent, les gens faisaient des réflexions sur les prix. Mais du coup, tout ça, que ce soit positif ou négatif, ça c'est des échanges aussi qui peuvent emmener vraiment très très loin. Il y a des choses... Oui. J'ai pas comme ça en tête d'exemple, mais... C'est les gens ont parfois juste utilisent ce qu'ils ont sous les yeux pour créer un dialogue et ensuite ça peut être très enrichissant et pas forcément rester sur simplement sur l'objet qu'on a sous les yeux quoi.
Ouais.
Et après il y a un vrai dialogue du coup entre deux personnes. En tant que créatrice, c'est quelque chose qui est assez fondamental et c'est pour ça que je continue à avoir une boutique, non plus comme avant en atelier boutique où je voyais les gens tous les jours, où il fallait être tous les jours à la vente. Là maintenant c'est plus une journée par semaine, mais c'est vraiment hyper important. Ouais. Et j'ai passé quelques mois à l'étranger où du coup je n'avais plus ce lien-là. C'est en rentrant... que je me suis rendu compte à quel point ça m'avait manqué
ouais.
dans mon travail. Ouais.
J'allais dire, depuis la création de ton entreprise, donc qui date quand même de 2010. Moi, ce qui m'a frappé dans nos échanges, c'est cette adaptabilité dont tu as fait preuve, où à chaque fois, tu as testé des choses. D'abord, des ventes en ligne. Ensuite, il y a le salon avec les ventes en ligne en parallèle. Après, tu te dis, tiens, le contact client, c'est chouette. Ouais. Donc, atelier boutique dans le Vieux-Lyon. Et après, des
circonstances. Et puis, on me demandait sans arrêt, où est-ce qu'on vous retrouve ? Où est votre atelier ? Et du coup, je me dis, bon, là...
Il y avait quelque chose à aller nourrir. Mmh. Et puis après, tu es partie à l'étranger pour des raisons personnelles et tu as continué la vente en ligne, mais ça t'a déconnecté de la relation client. Mmh. Après, quand tu es revenue à Lyon, en l'occurrence, tu as de nouveau fait partie d'un atelier boutique, si je dis pas une bêtise.
Oui, j'ai réintégré l'atelier. Exactement. Où j'étais déjà, mais très rapidement, j'ai été à Folie Douce, en boutique.
Oui, qui est dans les pentes dans les pentes de la Croix-Rousse. Également, il y a quelques temps, tu as co-créé Cobalt. Et là, maintenant, tu es dans l'atelier boutique du collectif Les Créatifs, vers la Guillotière. Et à chaque fois, tu as modélisé en fonction de tes besoins. Donc,
c'est vrai que le terme adaptation, c'est tout à fait vrai. C'est ça qui est à la fois, c'est un vrai tiraillement parce que c'est à la fois très enrichissant et en même temps énergivore.
Ouais.
Parce qu'il faut sans cesse s'adapter, en fait. Il n'y a aucune mécanique qui... Enfin, ou même si à un moment donné, ça roule très très bien, que ce soit l'emplacement de l'atelier, les ventes, etc., c'est trop ronronnant. Alors, on a besoin de mettre un petit peu de...
De boost,
oui.
Un peu de sel.
En fait, c'est ce dont je me rends compte là. Oui, c'est très vrai. Je me rends compte que chaque année a été très différente et que si des fois je suis trop bien organisée, comme en ce moment, je cherche de nouvelles pistes.
Oui, c'est vrai que c'est incroyable, ce planning que tu t'es mis en place, etc. Ça te permet d'avoir un cadre qui est souple, mais à chaque fois, tu as un caractère qui est aussi beaucoup dans le challenge.
Oui, ça c'est tout à fait.
Tu es aussi marathonienne et ça imprègne aussi ta façon de travailler.
Oui. Moi, je marche beaucoup au défi. Personnel. Hein.
Au défi personnel,
Là, les concours, c'est à la fois, bien sûr, avec d'autres personnes. Enfin, il y a d'autres personnes qui concourent, mais...
Tu le prends sous cet angle.
Pour moi, c'est plus personnel.
Ouais.
Et donc, ça vient toucher, effectivement, plusieurs facettes de ma vie. Pas seulement le sport, en plus. Je pense aux livres, parce que je me suis lancée dans la lecture d'un livre par semaine.
Waouh.
Au départ, c'est un an, mais en fait, je ne sais pas combien de temps. Peut-être moins d'un an, peut-être plus, j'en sais rien. Mais c'est du défi.
Et ça se passe comment ?
Ça se passe bien. Alors, à part, j'ai commencé en novembre, donc en décembre, j'avais un peu moins de temps à y consacrer. Mais en fait, depuis, j'ai rattrapé, je crois, les deux semaines de décembre où j'avais pas pu lire. Après, je ne lis pas pour lire n'importe quoi. Hein. Je choisis mes lectures. C'est des romans, des essais, des choses qui me... Voilà.
Oui, mais c'est de la lecture, entre guillemets, que je vais dire active. C'est-à-dire que tu lis, tu t'imprègnes de ce que tu lis. Et avec ton activité et le rythme que tu peux avoir, moi, ça m'impressionne vachement. Parce qu'en termes de disponibilité intellectuelle, émotionnelle, énergie du corps. Enfin, je veux dire, si tu lis le soir, tu t'endors sur ton bouquin.
C'est pour ça qu'il faut créer du temps en dehors, effectivement. Parce que jusqu'à présent... Le soir, c'était pas la solution.
Ouais.
Parce que, comme tu dis, je m'endors, moi. mais du coup, ça a été l'idée de créer dans mon quotidien de l'espace lecture qui était à la fois créer ce temps-là de qualité, effectivement. Et ça m'a permis aussi de m'éloigner des écrans. Et je trouve que c'est bien, c'est mieux.
Ouais.
Parce que je me dis perdre du temps. Et encore, là, je suis à une moyenne de 4 heures par jour, je crois, d'après mon téléphone.
C'est addictif, c'est terrible.
Sur mon téléphone. Et je suis bien contente de me dire, plutôt que de rester 3 heures sur Instagram à regarder des trucs qui en plus, après, viennent polluer le cerveau, à la fois le nourrir aussi, mais aussi parfois le polluer. Je dis, la lecture, c'est quand même plus... Je trouve ça plus sain. Et donc, tout ça pour dire que c'est un défi personnel qui me pousse vers l'avant.
Puis c'est aussi au lieu d'être un défi, c'est aussi un outil qui te nourrit, qui t'apaise aussi, je pense.
Oui, oui.
Et il y a un sujet dont j'ai vachement envie de parler.
Oui.
Justement, c'est en lien avec cette dynamique. Toi, tu as un bourreau de travail, de ce que j'ai pu identifier. Et au-delà de la passion de ton métier, parce que souvent, les métiers dits passion, il y a quelque chose déjà qui est, à mon sens, profondément ancré dans la définition de qui on est, beaucoup. Et du coup, on se met corps et âme aussi dedans. Et oui. On a beau être très organisé, etc. Il peut y avoir bien sûr des périodes plus denses, hein, comme on le sait pour les créatrices et les créateurs, les fins d'année, parce que c'est généralement, ça représente à peu près 30-40% de chiffre d'affaires. Enfin, c'est des moments importants. Mais d'être vraiment, des fois, tellement dans son travail que ça vous bouffe. Et toi, à plusieurs reprises, bah, t'as ton corps qui t'a dit stop, ou les circonstances de vie qui t'ont dit stop. Alors, je sais pas si je peux utiliser le terme de burn, mais toi, en tout cas, c'est quelque chose à quoi tu sais que le surmenage est quelque chose
auquel il faut que
tu fasses attention. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Effectivement, j'ai la sensation de... Dans les premières années, j'étais effectivement très imprégnée de mon travail, mais ça... À aucun moment, j'ai ressenti... Je pense que j'avais un bon équilibre vie perso, vie pro. Et en revanche, en 2017, j'ai commencé à être peut-être un peu trop imprégnée par mon travail et les marathons. Enfin, j'étais en pleine préparation marathon. Mon corps, voilà, a commencé à dire là, c'est trop haut. Et puis, début 2018, pareil, c'était une période où j'étais vraiment pleine d'envie, boostée à bloc pour cette nouvelle année. Et je me suis rompue le ligament croisé au ski. Enfin, c'est un accident très classique sur les pistes de ski. Et pour autant, moi, j'ai eu la sensation que ce truc-là est arrivé à un moment dans ma vie pour me dire « Pas si vite, on se calme.
»
Cette année, c'est béquille pendant 6 mois, opération, etc. Et là, ça m'a vraiment obligée à lever le pied.
C'est ce qu'elle veut dire.
Et c'était pas plus mal. Et je pense que c'était vraiment, j'ai la sensation que mon esprit et mon corps se sont réalignés, quoi. Mon corps a dit à mon esprit, on se calme. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir aller plus loin. Et après, confinement, Covid, etc., ça a été compliqué pour tout le monde. De mon côté, j'avais rapatrié mon atelier chez moi.
Tu m'as clairement dit, pour moi, c'était les grandes vacances.
Ah non,
je l'ai noté.
Donc, effectivement.
Oui, il y a des gens qui ont apprécié cette période de confinement et j'en fais partie aussi. Étrangement, sans être étrangement, ce ralentissement obligé.
Ça a été génial.
Et toi, c'est un peu sculpter ta créativité aussi.
Oui. Du coup, je me suis retrouvée dans mon salon envahi par mon atelier. C'était vraiment mon quotidien. J'ai eu beaucoup de plaisir justement à ne plus me mettre de limites, en fait, pro perso, à me dire de toute façon là je peux faire de la création jusqu'à 4 heures du matin si je veux, bon c'est pas mon rythme, mais mais si je veux je peux, ou le samedi et le dimanche et machin. Et là j'ai sorti j'ai une nouvelle collection qui s'est pareil un peu imposée à moi, je l'ai même pas tant réfléchi. Ça m'a envahie pendant plusieurs jours, j'ai pensé qu'à ça. J'ai passé mon mois d'avril 2020 à préparer la sortie, préparer les prototypes, réceptionner des nouvelles matières du coup pour le montage, ce qui n'était pas évident. Mais ça s'est tout super bien goupillé et j'étais vraiment ravie quoi. Vraiment, ça a été une période géniale. À la sortie de tout ça, l'été, juillet, c'était les 10 ans de mon entreprise, donc ça a été super, pareil, très dynamisant pour moi. J'ai donné beaucoup d'énergie à fêter ça et tout. Et le contre-coup, en parlant de surmenage, c'est que du coup de cette année 2020, où clairement moi mon travail m'a occupé et m'a permis de rebondir face à tout ce qu'on vivait, puisque je pense que chacun a rebondi, encaissé cette situation. Moi j'ai travaillé. Moi j'étais à fond, j'étais là, bon, moi c'est super, je travaille. Bon, 2021, j'étais un petit peu fatiguée.
Tu m'as clairement dit que tu... Au niveau, tu t'attendais pas aux commandes, enfin qu'il y ait autant de ventes.
Oui, en plus c'est ça, fin 2020 avec le confinement et du mois de novembre, je pense que les gens se sont reportés sur des ventes en ligne. Je ne m'y attendais pas du tout. J'étais pas prête. J'ai subi. Alors c'était génial, je veux dire en termes de ventes, c'était incroyable. Mais j'étais pas prête et j'étais pas dans un état d'esprit. Pour le coup, je commençais à être vraiment très fatiguée par tout ça. Et donc j'ai subi, mais au mois de décembre, j'ai repris pied. Je me suis dit, bon, c'est super, ce qui m'arrive quand même, je fais face. Mm-hmm. Et puis 2021, après ça s'est enchaîné sur Cobalt, la création de la boutique Cobalt jusqu'à l'ouverture en juin 2021. J'ai continué à beaucoup travailler, mais c'était vraiment là pour garder la tête hors de l'eau, quoi.
Ouais.
Enfin, J'ai continué à beaucoup travailler, mais j'étais déjà quand même dans une période compliquée.
Oui, mais c'est vrai que c'est ce que j'allais te demander, comment est-ce que tu as fait pour dealer avec ça, parce que moi je trouve qu'il y a vraiment Là, on parle aussi de, bah, d'entrepreneuriat, hein, forcément. Mmh. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que bah, voilà, on n'est pas à la même enseigne que des personnes qui vont être dites salariées, mmh. où il y a vraiment ce truc, voilà, je vous mets en arrêt maladie, où, ouais. voilà, où on est vraiment accompagné au niveau de, voilà, de la santé, voire de l'entreprise, etc. Et c'est très bien que ça existe, mais les indépendants ne sont pas du tout à la même enseigne. Et on aura beau avoir, en effet, une trésorerie, si on a pu la constituer, une prévoyance, parce qu'on apprend beaucoup de choses aussi quand on se lance comme ça.
Oui, la prévoyance, c'est très important pour les indépendants.
On reste des humains qui ont choisi une autre façon de travailler. Oui. Et en fait, quand on se retrouve face à des épreuves de vie ou alors, en l'occurrence, un surmenage, à gérer, c'est loin d'être évident parce qu'on peut se retrouver un petit peu démuni aussi de ne pas être accompagné, je vais te dire, par la société ou le monde du travail. Ça, il y a quand même un écart de dingo.
Oui.
Voilà.
Mais et ma toi, chance, ça a, fait, été, oui. Ça a été que d'une part, j'ai un suivi psychologique depuis plusieurs années qui était déjà en place. Et du coup, ça, c'est vrai que
c'est une bonne béquille,
c'était déjà une très bonne base. Et ensuite, en 2020, bah justement, je pense que grâce au confinement, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient indépendants. Je veux dire, dans la société globale, le fait que l'État a apporté des aides, notamment aux restaurateurs, des gens qui sont des indépendants aussi. Hein.
Bien sûr.
Enfin, j'ai l'impression que au niveau de la société, on a plus pris conscience qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient indépendants et que c'était très très différent effectivement de la vie de salarié. Donc ça, je trouvais que c'était une bonne chose, un point positif. Et dans mon cas, du coup, au-delà du suivi, c'est arrivé aussi dans un moment où mon entreprise avait 10 ans.
J'aurais été dans les deux premières années. Ouais,
Je sais pas l'issue. Enfin, je sais pas comment ça se trouve, je serais pas débile. Enfin, j'aurais pas continué. Je sais pas. Ouais. Hein. Mais là, j'arrivais dans un moment dans mon entreprise où mon site était une boutique en ligne depuis longtemps. Donc, c'était déjà installé au moment où les gens se sont reportés sur Internet. Même, tu parlais de trésorerie ou de. J'avais pas de peur existentielle. Enfin, même si je savais pas du tout de quoi demain était fait ou même les années suivantes, puisque du coup on savait pas non plus les répercussions de cette crise. Mais la chance que j'ai eue, c'était que j'avais déjà de l'expérience, un ancrage, des choses qui tournaient déjà dans l'entreprise. Même si j'ai changé de boutique que Cobalt s'est monté en 2021, il y avait quand même avant ça la boutique Folie Douce. Il y avait des choses qui étaient installées.
Qui étaient soutenantes pour toi. Du coup, là, on va parler un petit peu plus de tes créations et de la matière que tu travailles, qui est le polymère.
Oui.
Qui est d'ailleurs très, très en vogue ces derniers temps. Ça, oui. Ça, on peut en parler. Il y a une vague
Ça revient à la mode.
Ça revient vraiment à la mode. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Et puis, toi, comment est-ce que tu le travailles? Peut-être tes techniques, tes outils et les thématiques qui ressortent aussi.
Alors du coup, c'est une matière qui est comme une pâte à modeler. Donc elle existe dans différentes couleurs. C'est comme la peinture, c'est-à-dire qu'on peut vraiment mélanger les couleurs entre elles à l'infini. Ouais. On peut vraiment obtenir les teintes qu'on veut. C'est une matière qui se modèle et ensuite qui se fait cuire au four. Au four, elle va durcir. Elle ne change pas de couleur, elle ne change pas de taille. Donc ce qu'on met dans le four ressort tel que... Enfin, je veux dire, il n'y aura pas de transformation magique en
temps. La différence de la terre en soi, par exemple, pour la poterie.
Oui. Non, mais est-ce qu'il y a des gens qui pensent que ça rétrécit au four? Non.
Et tadam, la miniature.
Du coup, non, ça rentre vraiment, ça fait 6 mm et ça rentre tel que dans le four, ça ressort pareil. Il y a des petites astuces, il y a des pâtes qui sont dites translucides et qui, du coup, à la cuisson, gagnent en profondeur, se transforment un peu. Donc, techniquement, la couleur est un peu différente, mais c'est voulu. C'est une matière qui est assez incroyable parce qu'on peut l'utiliser avec différentes techniques, soit du modelage pur, c'est-à-dire vraiment on prend la matière et on avec ses doigts avec ses moi j'utilise assez peu d'outils, j'ai des embouts plus ou moins ronds, des choses un peu en gomme, mais j'ai des lames de cutter, des lames tranchantes et des aiguilles, Et voilà. Et en fait, si on veut faire juste du modelage du bout des doigts et avec trois petites aiguilles, on fait déjà des choses. Ensuite, ce que j'utilise quand même assez souvent, que ce soit dans les nourritures miniatures, mais aussi bah, du coup dans ma collection Azulejos, c'est la technique des cannes. Et ça, c'est l'idée de créer un motif dans toute une longueur. Et ensuite, c'est les tranches qu'on va utiliser. Quand j'essaye de simplifier vraiment l'idée générale de la chose, je parle du gâteau roulé. Donc ouais. Le gâteau, c'est une génoise rectangulaire. Par-dessus, on met de la confiture de fraises, admettons. On roule. Et ensuite, à chaque tranche, on a la spirale.
Ouais.
Et moi, ce qu'on voit dans la plupart des créations où j'utilise cette canne, c'est la fameuse spirale. Mais je vais le construire comme ça, avec deux rectangles de pâte qu'on aura roulés. Enfin,
ouais, tu l'as pour pensé schématiser. Avant, mais...
C'est une technique qu'on retrouve dans les pâtes de verre, dans les pâtes de sucre. Il y a des petits bonbons comme ça qu'on retrouve dans les pâtes de verre. C'est, je pense, aux millefiori, notamment les boules presse-papier là, avec des petites fleurs. Ben, c'est le même principe, la petite fleur, une des petites fleurs, c'est elle est tirée d'une canne. Si, ben là, on a le laminoir, qui est donc une machine à pâtes. Souvent, ça amuse beaucoup les gens, ils se demandent le rapport, mais oui, en fait, cette machine permet, dans un premier temps surtout, de conditionner la pâte. Même si on prend une pâte de couleur et qu'on ne veut même pas forcément la mélanger, mais déjà, pour pouvoir la travailler, il faut la passer plusieurs fois pour qu'elle se... On dit conditionner, alors je ne sais pas si ça, à l'intérieur, chimiquement, ça doit peut-être se réagglomérer, bien se mélanger. Après, elle est un peu plus souple aussi, elle est plus facile à travailler. Elle permet, enfin, le laminoir, il permet aussi de, bah, du coup, de mélanger de couleurs beaucoup plus rapidement que si on devait le faire à la main. On peut faire des dégradés aussi. Et ensuite, bah, quand on veut, par exemple, dans ma collection Azulejos, c'est des aplats, chaque bijou est plat. Le laminoir, il permet, en fonction du cran choisi, d'avoir tout simplement un aplat régulier. Après, j'emporte pièce, je redécoupe, je mets au four. Après cuisson, c'est percé.
À l'assemblage,
Et après parties. L'assemblage, à la fin, ouais. La pâte, elle peut aussi se vernir, se poncer. après cuisson, elle peut se colorer, elle peut... Enfin, c'est vraiment... J'ai envie de dire, les possibilités sont infinies.
Tu manipules cette matière depuis petite, mais oui. Du coup, j'avais envie de te dire, peut-être que tu ne t'en souviens plus, mais du coup, qu'est-ce qui fait que c'est cette matière-là qui te parle ?
Je crois que c'est plutôt ce qu'on peut en faire qui m'a plus guidée par là.
Ouais.
Je pense que j'ai été quand même très rapidement captée par la miniature, la nourriture miniature. Et l'idée d'arriver à faire quelque chose de réaliste, tout ça, en utilisant ce matériau-là. Enfin, c'est ce qui m'a obligée à le travailler, entre guillemets. Je pense que c'est plus la finalité qui m'a amenée dans le modelage, parce que sinon, je suis pas grande dessinatrice, etc. Donc, je vois pas pourquoi j'aurais fait plus du dessin, mais je ne m'explique pas trop, quand même, le pourquoi du comment du modelage,
ouais.
De la 3D, enfin, de tout ça. J'arrive pas trop à savoir particulièrement pourquoi... Pourquoi c'est ça qui m'aurait plus plu, et c'est pour ça que je pense que c'est plus la finalité, ce qu'on peut en faire, et l'idée dans la miniature de tromper le réel, c'est-à-dire de faire un truc
c'est ce que j'allais te dire, dans
qui est
que
le plus réaliste
j'allais
possible.
J'allais te demander qu'est-ce qui te plaît dans ce côté infiniment petit, et toi ce que tu m'avais dit c'était vraiment ce détail de la ressemblance avec le réel,
oui.
Et qu'il faut que ce soit vrai, il faut tromper la réalité.
Oui, ouais, c'est ce qui m'amuse le plus dans la miniature, c'est que ce soit le plus réaliste possible. Sachant que paradoxalement, je crois que plus c'est petit, plus c'est facile pour moi.
C'est vrai ?
Oui.
La première fois que je t'ai demandé, je t'ai dit, est-ce que tu mets des loupes ?
Non, alors j'utilise pas de loupes. Et en fait, je pense que la partie de la magie, elle se joue dans le fait que quand c'est tout petit, il suffit de 1, 2, 3 détails pour qu'on se dise, ah, c'est ça, c'est ce truc, et d'être un peu émerveillé. Si c'était plus gros, il faudrait beaucoup plus de détails pour arriver à quelque chose de réaliste.
Et puis, en fait, tu es aussi quelqu'un, je pense, qui est assez observateur, parce que tu t'inspires, bien sûr, de photos que tu peux retrouver pour peut-être être au plus réel, mais ça, c'est quand même là, dans la miniature, il faut quand même avoir un sens du détail et de l'observation qui est très prononcé.
Il faut pratiquement déconnecter de l'objet en question, enfin de ce qu'on a sous les yeux et de ce qu'on essaye de reproduire. Il faut l'analyser en se disant c'est quoi la texture, c'est quoi la couleur, Moi, je me suis retrouvée quand j'ai participé au concours Atelier d'Art de France en 2021. J'ai fait une France miniature. J'ai fait beaucoup de petits fromages, enfin une France miniature avec les spécialités régionales dessus. Et quand j'ai fait le Neuchâtel, donc qui est un fromage en forme de cœur.
Oui.
Et que je me suis retrouvée avec cette petite pâte croûte fleurie.
Est-ce que tu les as tous testés, ces fromages, avant de pouvoir
Je les connais en... Oui, alors non, je ne les ai pas tous testés avant de les faire, mais je...
Il y a du
bon
aussi
rayon sur la nourriture. Ça, mais je le fais pour les pâtisseries, les
oui.
pâtisseries miniatures.
C'est ce que j'allais te dire, parce que là, on parle de fromage, oui. mais dans les thématiques de ce que oui. tu crées, il y a les fleurs.
Oui.
Il y a quelque chose de graphique aussi, pour ce que oui. ça sous les roses. Et il y a la nourriture.
Oui.
Et ça, c'est un sujet, c'est dingo. Autant les pâtisseries, le sucré, je veux dire le macaron, j'ai une religieuse, par exemple, petite boucle d'oreille, etc. Il peut y avoir les fruits, enfin, et la nourriture, elle est, c'est quelque chose qui est central.
Oui, clairement.
Dans ton travail et dans ta vie aussi. Et de façon complètement anecdotique. On est extrêmement bien reçus à l'Atelier Lyonnais, hein, je le dis. Que ce soit dans notre première rencontre ou là dans l'enregistrement de cette interview, il y a des gâteaux, il y a le café et on parle de nourriture toutes les deux. Donc bon, je pense qu'on s'est bien trouvés là-dessus. Ouais, je trouve ça assez drôle, assez fou, voilà, que ouais, la nourriture soit au centre de ton travail.
Oui, bah clairement, en fait, j'aime manger, j'aime cuisiner, j'aime pâtisser, j'aime... La nourriture, la cuisine, c'est des choses qui ont, je pense, toujours fait partie de moi, de mon quotidien. Et c'est familial, clairement. Mm-hmm. Et je me rappelle même un jour ma mère qui me dit un peu soulagée, hein, presque. Quand même, depuis que tu modèles en miniature, elle me dit « tu parles moins de nourriture ». Et elle était presque un peu soulagée, parce que comme si avant, en fait, comme s'il fallait que je passe... tout cet amour de la nourriture, de la cuisine, quelque part. Parce que sinon, j'en parlais, je pense, tout le temps. Et
je sais pas, dans une autre vie, c'est passé quelque chose.
Je sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup de livres de cuisine chez moi. J'ai le Larousse gastronomique que je m'étais fait offrir pour mes 20 ans. Voilà, c'est sûr que la nourriture, c'est une source de joie, enfin, de couleurs, de plein de choses, en fait, je pense.
Ouais, complètement. Et puis, ça rejoint un tout petit peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est pour pouvoir reproduire en miniature, bien sûr, tu vas réfléchir le projet. Mais tu es vraiment dans cette notion de procédé et de texture et de sensation.
Oui.
Et c'est-à-dire, c'est complètement corrélé à la matière. Mais en l'occurrence, dans la cuisine, la pâtisserie, enfin, la transformation de la nourriture, il y a vraiment ces procédés-là aussi.
Ouais. Là, c'est marrant, j'ai une anecdote de la semaine dernière. Je devais refaire des petites baguettes pour ma paire de boucles d'oreilles, baguettes, bouteilles qui étaient pareillées. Bouteille de vin d'un côté, baguette de l'autre. Je refais mes baguettes et j'ai une collègue qui me dit « Mais ah, tu reprends pas une ancienne baguette que t'as fait pour refaire la même ?» Et elle me voyait en fait refaire ma baguette d'après une image d'une vraie baguette. Je dis « Ben non !» Enfin, si, je pourrais. Enfin, quelque part, il faut que je garde un peu la même taille, etc. Mais pour ce qui est du détail, et même pour un produit que je fais régulièrement, je reviens toujours à la réalité de la chose pour re-regarder comment elle est cette petite croûte. Est-ce que c'est plus orangé? Est-ce que c'est brun? Est-ce que c'est jaune? Qu'est-ce que je mets à quel endroit pour que ça ait l'air d'être une vraie petite baguette croustillante qui sort du four? Et elle était étonnée de voir que je reprenais pas simplement un ancien bijou que j'avais fait pour pouvoir reproduire.
Je reviens toujours à chaque fois
à la réalité en fait de la chose. Et bon, là c'était d'après une photo, mais je me suis amusée il y a quelques années, là ça fait un moment que j'ai plus fait, mais de faire un petit challenge que j'appelle la pâtisserie du mardi sur Instagram. Où je reproduis une pâtisserie individuelle d'un pâtissier lyonnais, parce que pour l'instant je reste sur Lyon, et je la reproduis en deux échelles, un 12e, un 7e, et après je photographie l'ensemble, la vraie pâtisserie et les deux miniatures. Et là pour le coup, j'ai tous les plaisirs en même temps, c'est-à-dire faire de la miniature, manger le gâteau après, et j'ai vraiment sous les yeux la pâtisserie à reproduire, donc je vois tout de suite la couleur, c'est verni, pas verni, enfin du coup je décompose ce que j'ai sous les yeux d'un point de vue technique. Et mm-hmm. c'est là où, du coup, notamment le concours d'Atelier d'Art de France, quand j'avais refait la petite spécialité miniature, ça oblige dans l'observation. Enfin, c'est grâce quand même à toutes mes années d'expérience de ma matière que je sais que tel truc, je vais pouvoir le faire comme ça. Comment rendre la transparence et le côté granuleux d'une pâte de fruits. Comment je vais faire ça en miniature. Je sais que je vais prendre voilà, de la translucide. Je vais faire mes tests de couleurs pour savoir si les couleurs sont bonnes. Je vais la piquer un petit peu avec une brosse à dents, par exemple, pour lui faire des petits côtés enrobés de sucre. Enfin, voilà, Mais du coup, c'est mon expertise de la matière ouais. qui me permet de savoir comment je vais reproduire telle technique.
Ouais.
Ça marche pas à tous les coups, hein, bien sûr. mais des fois, j'arrive à me bluffer, à me dire « Ah oui, du premier coup, j'ai réussi à faire un truc dont je suis contente. » Et puis des fois, non, il y a des choses qui ratent.
Ouais, c'est le jeu, oui. j'ai envie de te dire. Et tout à l'heure, on disait que l'argile polymère, là, est en plein boom.
Oui.
Et bah, du coup, moi, j'aimerais avoir ton regard là-dessus. Quel est ton regard sur ça? Est-ce que tu en as un? Et comment tu l'expliques?
J'ai deux réflexions par rapport à ça. D'une part, je me dis que quelque part, que la matière redevienne d'actualité, c'est pas mal vis-à-vis du grand public, parce que du coup, c'est moins long pour moi d'expliquer en quoi c'est. Quand les gens demandent s'ils en ont déjà entendu parler, bon, bah, ils comprennent, ils savent à peu près de quoi on parle. En revanche, après, ben, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que quand ça revient par vague comme ça à la mode, j'ai l'impression qu'on est un peu inondé de choses qui se ressemblent beaucoup. C'est sûr que moi, quand je me suis lancée, j'ai fait des macarons et il y avait déjà plein... Enfin, il y avait plein de macarons, ouais. on était déjà inondés de macarons. voilà, j'étais tout à fait dans ce processus-là de mode et de coller à ce que... J'avais envie de faire ça, c'était la mode. Bon, ben, on faisait un peu tout ça. Mais par contre, très rapidement, j'ai eu envie quand même de... Ben justement, de faire en sorte que mon macaron, il ressemble pas à tous les macarons qu'on pouvait voir ailleurs. Et aussi de développer des collections... un petit peu comme les fruits et les légumes ou tout ce qui est la partie salée, les sushis, les sandwichs, les choses comme ça, qui étaient beaucoup plus décalées, mais qui permettaient moi de me différencier. Enfin, en tout cas, j'avais l'impression que c'était ça, mon facteur de différenciation, et bien sûr aussi le réalisme, du coup, mm-hmm. pour arriver à faire un peu sa place au milieu de tout ça. Et aujourd'hui, la polymère revient avec des techniques que j'utilise pas forcément moi, ou des techniques que je trouve, mais c'est peut-être mon regard dessus, mon regard de 13 années d'entreprise par rapport à ça, mais où je trouve que c'est pas justement très technique.
Oui.
Et du coup, faire des marbrures, c'est un peu la base, quoi. C'est très joli, je dis pas, mais du coup, ben, on se retrouve, je trouve, avec des bijoux
qui se ressemblent.
Qui se ressemblent.
Et ça, c'est un vrai sujet aussi, parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure sur, voilà, sur la création, le process créatif. Puis en l'occurrence, quand tu es professionnel, hein, dans quel que soit le métier, dans l'artisanat ou la création, de cette notion de comment trouver sa patte, c'est quelque chose qui est loin d'être évident. On n'est pas créatif juste pour être créatif, il y a quand même quelque chose qui se travaille derrière. Toi, comment est-ce que tu as trouvé ta patte?
Je ne sais pas si je l'ai trouvée. Dans le sens où je n'ai jamais
bon.
Mais non, mais j'ai jamais su décider complètement quelque part, ça se voit dans mes collections, j'ai jamais su décider plus là, donc nourriture miniature, fleurs miniature, on pourrait dire qu'au moins c'est miniature, ça ressemble, enfin ça se, on pourrait dire que c'est quand même à peu près la même thématique,
mm-hmm.
mais après j'ai toujours eu cette collection un peu on va dire géométrique ou qui a varié au fil des années. J'ai eu des collections avec des motifs inspirés de Klimt. J'ai eu une collection pilotis. C'était vraiment de la rayure, des choses très géométriques. Rayures, couleurs, ensemble de couleurs. Comètes aussi, pareil. Des formes, des assemblages de couleurs. Donc ça, c'est des collections qui ont temporaires, en fait, qui ont duré un an ou deux au fil du temps. Et ben, j'ai jamais su me départir de tout ça. Enfin, ouais. J'ai toujours considéré que ça faisait partie de moi, que c'était des orientations qui sont différentes les unes des autres, mais qui pourtant sont tout à fait cohérentes quand ouais. on sait tout ce qui m'intéresse moi et tout ce que j'ai envie de créer. Donc, j'ai continué à faire ça. Mais du coup, c'est... Bah, j'ai une patte, mais elle s'exprime dans des choses quand même assez diverses.
Ouais. Ouais.
Après, c'est quelque chose qui s'est vraiment construit au fil du temps. Déjà dans l'idée qu'il fallait se démarquer. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le réalisme, dans des collections un peu plus, même si c'était au sein de la nourriture miniature, faire des choses un peu plus, plus folles. Enfin, je pense aujourd'hui, j'ai une paire d'huîtres, des petites boucles d'oreilles huîtres avec une huître ouverte et la coquille de l'huître de l'autre côté, la moule, les frites, des trucs, la pomme de terre raclette, mais je m'éclate. Et quand les gens en plus achètent ça, ils sont ravis d'acheter ça et... Et si c'est en ligne, j'ai pas forcément leur retour direct, mais si c'est en boutique, je l'ai. Bah moi, je suis trop contente, quoi.
Ouais.
Mais c'est pas évident de choisir de faire ça. Enfin, de se dire, allez, je le tente. Je fais et puis on verra bien si ça plaît. Si ça plaît, c'est là où c'est génial parce que je me dis, super, les gens sont dans le même délire que moi.
Ça, c'est ce que tu disais, il y a un peu ce truc aussi de faire ce que toi, tu as envie de faire, de faire aussi ce qui plaît et ce
oui.
qui se vend. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu es aussi une entreprise, tu es une entreprise créative, mais
oui.
tu restes une entreprise aussi, enfin l'atelier lyonnais. Donc, c'est trouver cet équilibre-là, c'est pas forcément évident.
C'est pas du tout évident. C'est vrai que c'est un tiraillement assez régulier dans le sens où quand j'ai envie de sortir une nouvelle collection, déjà je m'oblige parfois à sortir une nouvelle collection parce que il faut de la nouveauté. Des fois, elle s'impose à moi et j'ai envie de faire un truc et je me lance et voilà. Mais du coup, parfois, c'est un peu bon. Là, ça fait un moment, il faut sortir quelque chose. Et à ce moment-là, c'est sur quel... J'ai des idées, j'en ai à l'appel. Hein, donc, c'est pas, généralement, c'est pas un gros, un gros problème. Là, l'année dernière, par exemple, j'ai fait l'aquarelle. J'étais contente parce que, justement, je voulais faire à la fois du bijou qui soit, eh ben, évidemment, à la mode. C'est-à-dire avec des formes à la mode, des choses qui vont plaire. Voilà, sans... Je suis restée voilà, sur une idée de forme qui pouvait être tendance. Et en même temps, j'ai choisi d'aller explorer des techniques en utilisant de l'aquarelle, en faisant des recherches pour que vraiment, enfin, des recherches techniques pour être sûre que ça allait tenir la route derrière l'aquarelle, que ça parte pas, que ça se délave pas à la moindre pluie. Et donc j'étais hyper contente de justement proposer des choses qui à la fois, enfin, d'avoir trouvé en tout cas ce point entre ce qui est tendance et ce qui va plaire quand même parce que c'est le type de forme de boucle d'oreille qui va plaire en ce moment et une technique et des... On revient encore sur les couleurs, les ouais. mélanges de couleurs, d'avoir exploré la partie technique, de m'être vraiment fait plaisir en termes créatifs, quoi.
Ouais.
Mais c'est pas évident, ouais, de devoir faire des choses qui nous plaisent et en même temps de trouver une finalité, enfin financière, en tout cas une finalité de clientèle, en fait, derrière.
Ouais. Complètement. Et rien à voir, mais pourquoi l'atelier lyonnais? La question qui tue.
Oui, elle tue parce que franchement,
c'était voilà.
Parce qu'avant j'étais à Paris. Voilà la réponse. Non, parce que quand j'ai commencé la création et que j'ai voulu me trouver un nom pour un blog, j'aimais bien l'idée d'atelier. À la fois, je voulais pas que ce soit cantonné aux bijoux. Donc je ne voulais pas bijoux, je ne voulais pas qu'il y ait le terme bijoux dedans. J'avais certainement pas envie que ce soit les bijoux de Marie avec mon prénom. Donc c'est assez peu réfléchi comme nom, mais c'est suffisamment large pour pouvoir englober toutes mes autres activités si je me sors du bijou et que je vais plus vers la miniature ou qu'un jour je fais des lampes et de la déco, mais j'en sais rien. Enfin, il y avait l'idée quand même ça un petit peu universelle où je pouvais, j'étais pas cantonnée à une activité en particulier.
Et puis là, le fait que tu développes aussi pas mal de nourriture, moi, je trouve ça très en lien avec la gastronomie lyonnaise. Hein.
Oui, ah oui, et puis après Lyon,
bien sûr. C'est complètement cohérent.
Lyon, c'est parce que c'est Lyon, quoi. Parce que je suis lyonnaise et que quand j'étais à Paris, je voulais justement me... Enfin, je savais que j'allais pas rester à Paris, en fait. Mm-hmm. Et donc, je voulais me raccrocher quand même à ce qui fait mon fondement géographique.
Oui, ouais, je comprends. Là, on va parler du challenge créatif.
Oui, avec plaisir.
Le challenge créatif, c'était un moment et un processus aussi,
oui.
Très particulier pour toi, pour toutes, hein, toutes les participantes, je pense.
Oui.
Ce challenge, il a eu lieu en septembre. Il a été porté par le collectif Les Mains, qui a été créé entre autres par Myrti, qui a la marque Phyllis Handmade, et qui organise d'ailleurs pas mal de salons créatifs avec des thématiques sur Lyon pour l'instant, entre autres. Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience de ce challenge-là?
Oui.
Sachant que la thématique était autoportrait. Toi, quelle a été ton expérience?
Quand Myrti, elle a donc proposé le challenge, c'était un premier challenge créatif. Déjà, il y avait des nouveautés. Forte de mon expérience de l'année d'avant avec Atelier d'Art de France, m'étais démontrée par moi-même que le côté challenge, le côté sortir de ce que je faisais habituellement m'avait vraiment beaucoup enrichi, personnellement. Et donc, je me suis dit, ah super, challenge créatif, petit concours et tout, j'aime bien. Quand j'ai vu le thème, là, je me suis dit, oulalalala, autoportrait, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Et du coup, Myrti proposait d'en parler avec elle pour aussi amorcer le travail du type de création, etc. Et puis à l'époque, j'étais encore j'avais une coloc d'atelier, Fanny Perret, qui est graveur, avec qui j'avais beaucoup d'échanges à l'atelier, et donc du coup m'a aidée aussi un peu à peaufiner tout ça. Ce qu'il y a de certain, c'est que ça a été le moment... faire de la miniature, faire une pièce miniature, c'était là depuis au moins 3 ans. C'est-à-dire que clairement, à l'atelier, j'avais déjà tout le matériel. J'avais tout pour. Et là, ça a été la petite fichenette qui permet de le faire vraiment et de me lancer en me disant, là, c'est le moment. Et donc, faire une pièce miniature, c'était à la fois dans le côté créatif, c'était tout à fait ce que j'avais envie d'explorer, justement. Quand je dis que le concours, ça permet de sortir de ce qu'on fait d'habitude, j'allais pas faire un bijou, juste changer la couleur et de ce que je faisais habituellement. Là, il fallait justement que j'aille vers un truc un peu plus... me pousser à des techniques différentes et même, du coup, j'ai exploré des nouvelles choses. Et ce qui s'est imposé à moi comme angle de vue et d'attaque pour l'autoportrait, c'était la bibliothèque. On parlait tout à l'heure du challenge de lire un livre par semaine. Clairement, la lecture et même le livre, que ce soit la lecture ou l'objet en lui-même, ça a une place importante dans ma vie.
Et puis une bibliothèque, ça parle beaucoup de son propriétaire.
Et voilà, c'était tout à fait ce que je voulais démontrer dans le choix d'une bibliothèque. C'était de dire, quand on va chez quelqu'un, s'il y a des livres, on regarde ce qu'il a, et l'ensemble des livres qu'il a chez lui représente toutes les facettes de sa vie. Parce que chez moi, il y a des romans, mais il y a aussi des livres de cuisine, évidemment, d'art et d'histoire de l'art aussi. Ça prend déjà des gros rayonnages. 3-4
au moins. C'est imposant, ce genre de bouquin, c'est pas le petit bouquin de poche.
Ouais, j'ai 2 Masno, au moins, d'édition Masno, c'est... la rose gastronomique, ça prend vite de la place. Un espèce d'aperçu d'une personne. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ça, cette idée de pièce lecture, avec ce qui va avec la lecture, c'est-à-dire un petit canapé sympa, la lumière qui va bien, le petit plaid, le petit thé et les petits gâteaux, quoi.
Ouais.
Et les plantes.
Et les plantes.
Et les plantes pour toi.
Et du coup, oui, toi, tu as recréé ton salon.
Oui.
Et je vais te poser une question à la Virginia Woolf. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'avoir une chambre à soi?
La première chose qui me vient à l'esprit, là, comme ça, c'est... c'est l'idée de cocon, quand même. Et en plus de ça, il se trouve que... c'est la première fois là dans mon appartement où je vis, que j'ai un appartement où j'habite seule. Et je pense que c'est ma meilleure expérience. Jusqu'à présent, j'ai toujours... Non, pas seule, mais dans l'idée d'avoir choisi un espace de vie où je vis seule.
Qui n'appartient qu'à toi.
Qui n'appartient qu'à moi. Et donc, mais je pense qu'on est sur un peu la même idée que l'entreprise où je suis seule et où je peux tout gérer. Je suis très entourée, par ailleurs, que ce soit dans ma vie sociale ou même professionnelle, je dirais, avec les colocs d'atelier ou collègues de boutique. Mais l'espace comme ça de vie qui n'appartient qu'à soi, c'est vraiment un cocon, un refuge, un endroit où il y a zéro concession, en fait.
Ouais, et puis où tu peux cultiver ton jardin.
Oui. Et je ne me souhaite pas que ce soit comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Mais, je souhaite à personne, d'ailleurs, de vivre ça et de le subir, surtout. Mais, parce que, par exemple, au confinement, j'ai eu très peur. Je me suis dit, oh là là, mais mes quatre murs, moi et mon chat, mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Et en fait, pas du tout. Non, mais vraiment, j'ai eu peur. Hein. Je me suis dit, quand même, les gens qui ont des enfants, des copains, est-ce qu'ils vont peut-être mieux le vivre? En fait, je ne suis pas sûre du tout. Et au contraire, je crois que... Enfin, moi, ça a été... Là, c'est quelques années de vie dans un appartement que j'occupe seule. Et, c'est vraiment...
Ça t'a créé une liberté, quoi. En fait, aussi.
Ouais. Oui, c'est... À tout point de vue.
Ouais.
Ouais.
J'aime bien cette petite question. Elle m'est venue comme ça.
Bah, elle est un peu ambiguë. Ambiguë. Je sais qu'il y a deux versants, évidemment.
Mais après, c'est ton regard que
je trouve intéressant. Oui, mais je pense que c'est valable sur un instant T. Je ne me souhaite pas, peut-être pas, de vivre comme ça tout le temps.
Mais, non, mais je pense que c'est comme tout, en fait. C'est comme quand tu es en phase, tu sais, il y a des
oui, c'était le bon moment
c'était
pour
le
moi
bon moment pour toi de vivre ouais. ça à un autre moment ce sera peut-être différent ouais. Et c'est ce qui fait la beauté de la vie aussi, c'est ce mouvement en fait, parce que sinon ça peut être l'angoisse totale si tu le vis pas bien. Et puis voilà, c'est un jeu d'équilibre aussi. En tout cas à ce moment-là, c'est quelque chose qui te correspondait, qui te correspond. Et puis, clairement, là, avec ce challenge, ça t'a ouvert à d'autres perspectives aussi. Et c'est ça que j'aimerais qu'on aborde là, bientôt, avec cette fin d'épisode. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Quelle perspective ça t'a ouverte? Parce que t'en as un peu parlé au départ. Et c'est ça qui, je trouve, assez fort et assez fascinant, c'est que c'est ce renouvellement aussi pour soi et dans la création.
Oui, ça m'a apporté que depuis, je ne pense que miniature. j'ai très très envie de faire davantage de miniature plutôt que du bijou. Enfin, en tout cas, de faire évoluer, parce qu'on est toujours entre... création et entreprise, de faire évoluer mon équilibre économique de mon atelier vers plus de miniatures. Le problème, c'est que du coup, faut trouver quoi, quand, comment, à qui. Et c'est ça qui est un peu en train de se jouer en ce moment, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, tout comme créer une pièce... la pièce que j'ai créée pour le concours, quand je dis que j'avais du matériel, je l'avais depuis 3 ans parce que j'avais déjà des projets il y a 3 ans, mais que je n'avais pas encore eu l'occasion de me lancer pleinement là-dedans. Du coup, voilà, l'avenir, c'est proposer des choses qui seront plutôt de l'ordre de la décoration ou de l'art. Enfin, je ne sais pas jusqu'à quel niveau on parle... Enfin, le mot qu'on voudra mettre dessus, et aussi clairement de la personnalisation. Avec les bijoux, je fais déjà beaucoup, beaucoup de créations sur mesure, parce que les gens me demandent des choses qui leur sont... Voilà, des trucs les plus loufoques les uns que les autres. Hein. Mais je m'amuse beaucoup, et du coup, ce que je trouve génial, on en revient à ce que ça apporte aux gens et le retour qu'ils me font eux. Ils sont tellement contents d'avoir un truc personnalisé, à se dire... pas seulement je suis seule à l'avoir, mais vraiment d'avoir eu une idée et pouf, d'un coup, c'est physique. Je leur fais quelque chose qui correspond exactement à ce qu'ils avaient attendu. Et dans la miniature, je rêverais de pouvoir refaire sur mesure, du coup, peut-être pas des pièces entières, mais des éléments, des choses. C'est là où je ne sais pas encore bien comment ça va se présenter. Dans l'idée, moi, la maison que mes grands-parents ont fait construire et dans laquelle ils ont vécu, c'est une maison que j'ai beaucoup aimée, qu'ils ont vendue.
À Olioul.
Oui. C'est quand même aussi l'endroit où je suis née. Enfin, pas dans la maison. À Olioul. Mais tellement pas loin que je pense que je suis très, très attachée à ce petit bout de terre. Et cette maison, clairement, j'ai l'impression que je lui ai pas dit au revoir.
Oui.
Et c'est un peu un regret... J'ai même l'émotion en le disant. En fait, j'avais pas mesuré à quel point, quand ils l'ont vendue, c'était une maison à laquelle j'étais attachée.
Et mon idée, ce serait peut-être, du coup, enfin ma première idée qui s'attache à mon expérience, ce serait de refaire en miniature peut-être le salon ou la cuisine, enfin un espace comme ça que j'imagine encore en rêve, quoi. Je peux encore déambuler en rêve dans cette maison. Et d'avoir comme ça, sous les yeux, la miniature de cette maison, enfin d'une partie de cette maison, ça aurait vraiment beaucoup de sens pour moi. Et je me dis que peut-être ça en aurait pour des clients. Ouais.
Mais clairement, nous, c'est ce qu'on s'était dit, les trois jurés du challenge, tout était dingue. Enfin, c'était incroyable ce qui était proposé. Et je crois que nous, ce qui nous a ému et frappé dans ton projet, c'est de se dire de quelque chose de très personnel, il y a quelque chose d'universel. Et ça, dans les souvenirs, dans les lieux, la maison, ça parle de soi, ça parle de l'intime, en fait. Et donc, du coup, il y a quelque chose d'assez fort là-dedans. Mmh. Et moi, je suis aussi émue, plus émue. Et je pense que voilà, les lieux dans lesquels on a été, on a vécu, on a grandi, ça reste en nous, ça reste dans nos souvenirs ou dans nos rêves. Mais c'est vrai que de pouvoir l'avoir, une vue, en fait, matérialisée, là, en l'occurrence, c'est très singulier, ça existe peu. Et donc il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Et je pense que tu peux complètement rencontrer ton public là-dessus. On verra.
On verra, l'avenir le dira.
Et là, on va arriver du coup à la question de la fin. On est empreinte de nos émotions là tout de suite. Justement, de quoi tu te sens empreinte toi aujourd'hui?
Ah là là. Tout de suite, on vient de parler de nostalgie aussi, mais je pense que justement, je suis empreinte de toutes ces années de vie, d'expérience. On vient de parler de la maison d'Olioul, empreinte aussi de ma famille, dans le sens les liens familiaux. On a parlé de mes trois grands frères aussi en tout début d'épisode. C'est, je suis empreinte de toute cette expérience en fait de vie. Après, dans mon travail au quotidien, j'ai envie de dire que je suis empreinte de ce que j'aime au plus profond de moi. On parlait de nourriture, on parle de plantes, on parle de... Je suis quelqu'un qui a beaucoup de passion, en fait, quelque part. Je m'intéresse à beaucoup de choses.
T'es très empreinte du vivant.
Oui.
Je trouve, mais ça, oui, c'est un regard, mais...
Oui, ou de ce qui, j'ai même envie de le résumer à de ce qui bouge, dans le sens où les plantes, ça vit effectivement, et où dans la contemplation, puisque je suis quand même très observatrice, contemplative, la nature, enfin les nuages, moi tout simplement, j'ai vécu en Irlande, regarder le ciel, c'est un vrai spectacle. Mmh. Ça va tellement vite, les couleurs, les formes, même si ça va du gris au bleu ou blanc, c'est assez incroyable. Je vais pas résumer, c'est trop cliché de parler des couchers de soleil aussi, des nuages, mais quand même, ça bouge. Et c'est quelque chose qui... Enfin, entre les couleurs et les formes, vraiment, moi, je me lasse jamais. Et en fait, ces couleurs et ces formes, on les retrouve un peu dans tout, quoi.
Ouais.
Même l'architecture des villes, enfin parce que là je parle nature, mais même en ville, l'architecture des bâtiments, et du coup quand on se déplace de voir différents bâtiments, c'est même ça, ça me nourrit. Même ça, ça a un impact en fait sur ce que ensuite je retranscris en création.
Super. Merci beaucoup Marie, c'était chouette.
Merci.
Cet épisode va être très très long et j'ai très très faim.
Et voilà, vous savez tout. J'espère que vous avez apprécié cette conversation et qu'elle vous a donné faim. Plus sérieusement, j'espère qu'elle a peut-être éveillé chez vous l'envie de vous tenter au polymère, mais surtout d'aiguiser votre sens de l'observation et de faire attention aux détails. Ces derniers font tout. Et si vous ne connaissez pas le travail de Marie, je vous invite à le découvrir au plus vite et voire même de partir à sa rencontre au sein des boutiques où l'atelier Lyonnais est présent. Pour conclure, je dédie cet épisode au vivant, rien que ça. Enfin, je termine en vous remerciant comme toujours pour votre écoute. Et si l'épisode des podcasts vous ont plu, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcasts. 5 étoiles, ce serait le top. On aime bien et je vous assure que ça a son importance. Mais surtout, s'il vous a plu, partagez-le. Partagez-le auprès de ceux et celles qui pourraient en apprécier le contenu. Et si vous souhaitez être au courant de la suite des épisodes, je vous invite à suivre Les Empreintes via vos applications d'écoute favoris en vous abonnant. Et puis pourquoi pas, à suivre les réseaux sociaux du podcast. En attendant, je vous souhaite de rester curieuse et curieux et de continuer à tendre l'oreille. Et je vous dis à très bientôt.